RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots, dans cette danse de l'écriture aujourd'hui, puisque c'est à l'écriture que j'aimerais qu'on s'intéresse, à la façon dont on écrit. Comment écrit-on ? On écrit à la plume ? Ouf, non, on ne le dit plus. On écrit au stylo ? Oui, ça arrive même souvent. Mais de plus en plus, quand on écrit, on sert d'un clavier. Jadis, on disait « on tapait à la machine ». Aujourd'hui, plus personne ne dit « on tape à la machine ». On tape sur un clavier. C'est une machine, certes, mais un petit peu différente. Alors, quand on tape sur son clavier ou quand on écrit au stylo, est-ce qu'on fait beaucoup de fautes ? Est-ce qu'on fait le même type de fautes ? Est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Est-ce qu'on peut essayer de corriger ou de faire corriger ces fautes ? Ce sont quelques-unes des questions que j'aimerais poser à Laurent Schull, qui est l'invité d'aujourd'hui de la danse des mots. Bonjour Laurent Schull.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir nous parler de ce que vous faites. Vous avez fondé et vous dirigez une société qui s'appelle MySoft. Bah, première question, dites-nous un petit peu ce que c'est que MySoft. On comprendra mieux pourquoi vous êtes l'invité de la danse des mots.
Alors MySoft, c'est une société qui est née il y a maintenant 25 ans et qui avait l'idée, avec l'essor de la micro-informatique, de se concentrer sur la diffusion de logiciels qui aident à écrire mieux, plus vite, et les deux ensemble, si possible. C'est ainsi que nous avons introduit beaucoup de technologies en France. La reconnaissance vocale avec la gamme Dragon, la traduction automatique avec Sistran. Et puis, depuis quelques années maintenant, nous diffusons aussi un logiciel d'aide à la correction et à la rédaction Antidote.
Alors, n'allons pas si vite. Vous dites que vous avez fondé cette société il y a 25 ans. Les choses sont allées très vite il y a 25 ans. Le rapport à l'informatique, à la micro-informatique et à la façon d'écrire grâce à ces nouveaux instruments était extrêmement différent. Où est-ce qu'on en était il y a 25 ans ? Quand on tapait sur un clavier, il n'y avait pas de correcteur, il n'y avait pas de... On se débrouillait avec l'œil et avec le doigt.
Alors en fait, un petit peu avant la création de la société, on avait déjà vu un type de logiciel apparaître qui était ce qu'on appelait la correction orthographique, mais au sens strict, c'est-à-dire est-ce que le mot est correctement orthographié, éplé, est-ce que polypose s'écrit avec un Y ou avec un I. Et au moment où j'ai fondé cette société, on était juste au début d'une deuxième génération de logiciels qui alliait non seulement la correction purement orthographique avec ce qu'on peut appeler la correction grammaticale, c'est-à-dire les règles d'accord ou tout ce qui tourne autour d'objets linguistiques, on va dire, un peu plus sophistiqués. Et ça a été un grand tournant qui est toujours le tournant, la phase actuelle de ce type de logiciel qui depuis ont par contre beaucoup évolué avec une ambition, ça a été d'allier aide à la correction et aide à la rédaction. Et ça, ce sont deux choses importantes que l'on retrouve aujourd'hui.
Donc, dès le début des années 90, puisque c'est à ce moment-là que vous fondez cette société, vous vous préoccupez d'aider à bien écrire, si on veut, c'est-à-dire à écrire sans faire de faute d'orthographe, mais d'aider également à la rédaction. Les deux ont été présents dans votre souci, dans votre projet.
Alors, c'était présent dans mon projet, parce qu'on a tout de suite mis à notre catalogue des logiciels, par exemple, de type dictionnaire. Mais ça a été aussi présent et certainement l'élément le plus important qui a différencié le logiciel dont nous allons parler, je pense aujourd'hui, Antidote, qui a été d'allier les deux. Dès le départ, Antidote a marié correction et dictionnaire, et c'est resté un petit peu le trademark de ce logiciel à travers les années.
Donc Laurent Schull, il y a 25 ans ou un petit peu plus, quand on pensait à cette idée de correction, on imaginait d'abord une correction lexicale, c'est-à-dire en gros de savoir si temps prend un S au singulier, si charru s'écrit avec un R ou deux R, c'était ça le premier pas. Et vous avez été bien au-delà de ça. Mais dans l'esprit des gens, très souvent, la correction consistait à savoir comment on écrivait un mot s'il y avait une difficulté lexicale à l'écrire, quoi.
Absolument, ça reste toujours vrai, d'autant plus que l'informatique a apporté une deuxième couche de problème au pur problème lexical, qui est le problème de la faute de frappe. Si j'écris, par exemple, j'ai vu une très belle G-A-M-E, gamme, intuitivement, on va dire, ah ben non, c'est gamme, il manque un M, mais peut-être que c'est tout simplement la gare, G-A-R-E, ou bien une lame. Donc, la correction orthographique se double des fautes de frappe.
Alors ça, c'est sûr, et il faut bien se souvenir que quand on parle de fautes de frappe, ça efface un petit peu le côté moral de la faute d'orthographe. Quand on fait une faute d'orthographe, vraiment, on se sent très fautif. C'est pas une erreur, c'est une faute. On ne dit pas une erreur de frappe, on dit une faute de frappe, mais la faute de frappe, bah, c'est beaucoup moins stigmatisant d'une certaine façon, parce que c'est simplement le doigt qui a appuyé sur le L au lieu d'appuyer sur le M. C'est une histoire de centimètres. Ou bien, très souvent, quand on tape sur le clavier, on intervertit. Au lieu d'écrire « il est EST », on écrit « il ETS » ou bien « SET ». Ça arrive extrêmement souvent qu'il y ait justement un petit défaut de coordination qui fait qu'on va appuyer sur une touche avant d'appuyer sur l'autre. Ça fait des fautes de frappe. Alors, est-ce que les correcteurs, très vite, ont pu détecter justement ce type d'erreur ?
Oui, ça c'est vraiment extrêmement simple en informatique. La technique est hyper simple, effectivement. C'est simplement comparer le mot qui a été écrit avec une base lexicale où il y a d'autres mots, les mots bien orthographiés. Et à partir du moment, le correcteur disait « Ah, ce mot n'existe pas dans ma base ». Et à partir de là, il disait « Bien, effectivement, en changeant une ou deux lettres par-ci, par-là, qu'est-ce que je peux proposer à l'utilisateur ?» Encore faut-il d'ailleurs que les correcteurs, ceci dit, aient des bases très complètes. Ce type d'algorithme dont j'en parle, par exemple, ne marcherait pas forcément dans le domaine médical.
Est-ce que je peux vous interrompre juste un instant pour vous demander de nous expliquer rapidement ce qu'on appelle un algorithme? C'est un mot dont on se sert de façon extraordinairement courante et en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Qu'appelle-t-on un algorithme rapidement, sans entrer dans les détails techniques?
Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour l'expliquer, mais l'algorithme, c'est tout simplement de dire « je décris un ensemble d'instructions qui vont faire que je vais comparer ce qui a été, dans ce cas précis, écrit avec ce que je connais ». C'est tout simplement dire « je modélise un petit peu la recherche de ce que j'essaye de trouver ».
Donc, grâce à ces algorithmes, assez facilement, on a pu commencer à détecter des erreurs d'orthographe simples, c'est-à-dire, par exemple, ce que je vous disais, charrue écrit avec un seul R, on va dire, bah non, dans le dictionnaire, on voit bien que le mot charrue s'écrit avec deux R. Donc, on le signale à l'utilisateur.
On le signale et c'est à lui de, dans ce cas-là, de valider la correction qui est proposée. Dans l'exemple que vous avez cité, charrue, a priori, il n'y a pas beaucoup de possibilités de variation, mais tout à l'heure, je prenais l'exemple de GAME. Vous pouvez trouver 20 mots qui ressemblent très fortement à ce mot. C'est toujours l'utilisateur qui doit valider, en tout cas aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, on fera autrement. Mais aujourd'hui, l'utilisateur doit rester maître de la correction. Et ce qui est vrai pour l'orthographe est encore plus vrai, si je peux utiliser cette mauvaise manière de parler, pour la grammaire, où là, les faux pièges ou les pièges, tout simplement, sont multiples.
Oui, en effet, quand on voit « game » écrit « G-A-M-E », d'abord, c'est peut-être un anglicisme, et le mot « game ».
Tout à fait.
Ensuite, peut-être que simplement, il manque une lettre, et qu'il fallait écrire « G-A-2-M-E », et là, on a un mot qui existe, mais ça peut être « gare », ça peut être « gal », ça peut être « gaz », ça peut être quoi ?« gat », il faudrait un circonflexe sur le... Oui,
Rame.
Absolument. Donc, il y a énormément de possibilités.
Tout à fait.
Dans tous les cas, les systèmes dont vous vous occupez proposaient quelque chose à l'utilisateur, c'est-à-dire ne corrigez pas de façon automatique sans lui demander son avis, si on peut dire.
Mais ça serait dramatique, à mon avis, d'aller vers la correction automatique. Et donc, il faut proposer. Et de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est de proposer intelligemment. Pour prendre l'exemple, pour rester sur le mot gamme, quand on était à l'époque de la correction purement orthographique, bien entendu, entre guillemets, tous les mots se valaient, tous ceux qu'on a cités se valaient. Aujourd'hui, où on est dans une correction grammaticale, même sur la correction orthographique, on peut faire mieux. Si vous dites « la gamme », vous citiez tout à l'heure le verbe « gave », on va éliminer le verbe « gave » des propositions. L'idée, c'est de ramener l'utilisateur vers un choix le plus restreint possible, mais de lui donner le choix entre les différentes possibilités.
D'accord, donc si on voit la gamme de sol, on saura qu'il manque un M, mais si on voit la gamme de nevers, on se dira que probablement il faut remplacer le M par un R et qu'on est à la gare de Nevers et qu'il faut descendre.
Alors là, on n'en est pas encore tout à fait là, on n'en est pas loin, mais on va rester sur l'aspect purement de la catégorie grammaticale. Est-ce que c'est un mot féminin ou pas? Ce qui, avec le fait qu'il y a là devant, va certainement aider cela.
Laurent Schull, merci d'être avec nous donc dans cette danse des mots qui parle de la façon dont on peut être aidé pour écrire sans faute ou disons avec pas trop de faute. Et vous précisiez vous-même il y a un instant que tous les systèmes font des propositions aux utilisateurs et donc ne se substituent pas à l'utilisateur. Alors, on vient de parler de ce qu'on appelle souvent des fautes d'orthographe lexicale, des fautes d'orthographe d'usage, mais il y a aussi très souvent des fautes d'orthographe grammaticale. Et là, j'imagine qu'il est beaucoup plus complexe pour une machine de les détecter.
Alors, les détecter, c'est plus complexe, effectivement. Et d'ailleurs, les machines aujourd'hui, de temps en temps, se trompent. Et on est dans le domaine grammatical. Et donc, on est encore plus dans la nécessité d'expliquer à l'utilisateur quelle est la faute qu'on a repérée et pourquoi. Et de ce point de vue-là, les systèmes peuvent varier entre simplement dire il y a une faute ou bien, comme le logiciel Antidote le propose, d'avoir une explication graduée de la faute. Quand on, pour être très concret, je vois marqué, par exemple, l'émission que j'ai vue, et vous voyez « vue VU ». Le logiciel va vous dire « attention, c'est VUE sans doute », et il va vous expliquer que c'est la règle du complément d'objet direct. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez même accéder à un petit cours de grammaire qui vous explique cette règle dans le détail.
Et pourquoi on vous suggère de mettre un « e » quand vous dites voilà. « l'émission que j'ai vue » ou « la fille que j'ai vue » et que c'est peut-être un peu différent si c'est « la fille que j'ai vue passer »,« la fille que j'ai vue
absolument,
tomber ».
Absolument, tout à fait. Bah, là il ne va pas, normalement, il ne va pas s'arrêter dans ce cas-là, sur cet exemple. Donc, il faut à la fois éviter les fausses détections, mais toujours les expliquer. Et une des vertus de ce type d'outil, et en particulier d'Antidote, c'est donc d'aider non seulement à corriger son texte, mais en même temps à s'améliorer. C'est pas neutre de dire que, par exemple, Antidote a été reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation nationale.
Alors, puisque vous y venez, Laurent Schull, parlez-nous un petit peu d'Antidote. Qu'est-ce que c'est en fait qu'Antidote et d'où ça vient? Je crois que ce n'est pas une invention française, mais qu'elle nous vient du Canada.
Alors tout à fait, c'est une invention d'une société qui s'appelle Druid. Tout est cohérent entre
Druid.
Entre le mot
bien
et
qu'elle
le nom
soit
de la
canadienne,
société.
Elle n'est pas bretonne, donc
elle n'est pas
ou
bretonne,
en tout cas pas directement.
Mais elle a créé effectivement cet Antidote il y a à peu près 25 ans. Avec l'idée, dès le départ, et c'est ce qui l'a caractérisé dans l'univers des gens qui foisonnaient autour de l'orthographe et de la grammaire, de créer non seulement un outil d'aide à la correction, mais également un outil d'aide à la rédaction. Et c'est pour ça que dès le départ, ils ont créé un outil qui intégrait à la fois un correcteur et un dictionnaire. Depuis, on en est beaucoup plus avancé. Il y a une dizaine de dictionnaires maintenant d'Antidote. Et chose amusante pour cette société qui adore le français, qui ne vit que pour le français, depuis 3 ans maintenant, ils ont fait la même chose pour l'anglais. Il y a un Antidote pour l'anglais également. Comme quoi on peut aimer et corriger.
Comme quoi il peut y avoir des contrepoisons avec le français et des contrepoisons avec l'anglais, puisque Antidote forcément évoque le contrepoison. Donc je parlais d'une société canadienne, si on veut être plus précis, j'imagine que c'est une société québécoise.
Absolument, basée à Montréal, bien sûr.
Alors, est-ce que c'est important, à votre avis justement, de lier ces deux choses, la correction grammaticale et l'aide à la rédaction, c'est-à-dire de proposer à la fois de revenir sur une erreur possible, mais d'affiner la façon dont on s'exprime, c'est-à-dire d'être une aide beaucoup plus intelligente, entre guillemets. Vous avez vous-même utilisé cet adjectif qu'on emploie très souvent depuis quelques années, associé à des machines, ce qui est paradoxal, mais c'est le sens de l'histoire, ou en tout cas de la technologie.
Alors pour moi c'est fondamental, parce que on écrit pour bien se faire comprendre, on écrit pour illustrer une idée, et donc les deux sont intimement liés. Je vais vous donner un exemple. Je reviens par exemple tout à l'heure sur l'aspect je disais qu'Antidote existe pour l'anglais, mais pour autant quand on écrit en français, on peut avoir envie de ne pas avoir d'anglicisme dans son texte, et donc de pouvoir repérer les anglicismes, c'est à la fois une tâche purement, je dirais, orthographique, mais également une tâche liée au dictionnaire. Encore faut-il que le dictionnaire repère lui-même les anglicismes. Ou bien, si vous écrivez un texte un petit peu, sur, par exemple, une critique sur un film, et que vous êtes très content de ce film, que vous l'avez bien aimé, vous pouvez vouloir que votre article reflète ça. Donc, pouvoir repérer dans l'article qu'il y a essentiellement des mots positifs et non pas des mots négatifs. Voilà comment les deux aspects, dictionnaire et correction, se lient de manière très intime.
Ouais, ouais. Vous parliez des anglicismes. C'est un logiciel qui, par exemple, si vous écrivez un texte ou vous parlez d'email, peut vous suggérer d'employer le mot courriel à sa place.
C'est exactement cela.
Ouais.
Et à noter que tous ces aspects-là sont des aspects paramétrables. Si vous aimez bien avoir des anglicismes, par exemple, si vous êtes rédacteur dans une rubrique high-tech, peut-être qu'il y aura plus d'anglicismes, mais tout simplement, vous désactivez les alertes sur les anglicismes. À vous d'adapter votre antidote à votre manière d'écrire.
Oui, donc il faut d'une certaine façon familiariser la machine et essayer de mettre en place un contrat d'interaction entre la machine et son utilisateur. Je veux ceci, je ne veux pas cela.
J'aime bien votre mot contrat, effectivement. Oui. C'est un mot que je n'ai jamais entendu dans ce domaine-là, mais que je réutiliserai, si vous le voulez bien.
Je n'en suis pas propriétaire. Vous avez toute l'attitude de l'utiliser.
C'est gentil.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça fait réfléchir l'utilisateur sur la façon dont il va se servir de sa machine. Mmh.
Pour prendre un exemple il y a un certain aspect du contrat qui sont obligatoires dès le départ, qu'il faut valider. Par exemple, est-ce que quand vous utilisez « je », est-ce que c'est masculin ou féminin? Bien entendu.
Il faut entrer ça dans la machine au départ.
Oui, force à dire cela. Ou pour prendre un exemple sur lequel on a beaucoup parlé il y a 2 ans maintenant, je pense, est-ce que vous voulez écrire dans la fameuse, j'utilise « fameux » avec précaution, orthographe qu'on a appelée l'orthographe rectifiée, celle qui fait écrire « nénuphar » avec un « F », ou bien est-ce que vous voulez respecter l'orthographe traditionnelle? Voilà des paramètres qu'il vous demande de signaler dès le départ. Et un troisième paramètre qui est intéressant aussi, et qui en dit long sur la difficulté de ce type d'outil à bien surmonter les difficultés, c'est: quel est votre niveau en français? Et en fonction du niveau que vous déclarez, il ne va pas forcément regarder les mêmes choses et attirer l'attention sur les mêmes choses. Considérant par exemple...
C'est-à-dire, oui, donnez-nous un exemple alors pour qu'on comprenne.
Je vais prendre un exemple qui va être un peu forcé, qui à mon avis n'est pas tout à fait juste, mais si vous vous déclarez excellent en français et que vous écrivez « je mange » avec un S, il va dire « la faute est tellement ridicule que quelqu'un qui est excellent en français ne la ferait pas ». Et donc, peut-être qu'il va pouvoir, dans ce cas-là, dire « je l'ignore ». Alors, tout ça, c'est...
Parce que si vous écrivez « je mange avec un S » et que vous êtes excellent en français, c'est que vous le voulez. Une intention.
Une intention, oui. Exactement. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce niveau en français va être extrêmement important. Par exemple, Antidote est beaucoup utilisé, vous vous en doutez, non seulement en France et au Québec, mais dans la francophonie. Si vous êtes un jeune qui n'êtes pas de langue maternelle français, Antidote va vous demander de le déclarer. Il va faire aussi des recherches d'erreurs qui ne sont pas exactement les mêmes que pour un français.
Laurent Schull, vous êtes toujours avec nous dans cette danse des mots qui parle en particulier de ce logiciel Antidote qui aide donc à écrire, qui aide à ne pas faire de fautes et qui pourtant en fait de temps en temps. Antidote fait des erreurs?
Alors oui, Antidote en fait et en fera et ça durera assez longtemps. Encore une fois, je crois que c'est très important pour les éditeurs de dire que Antidote, s'il fait des erreurs, ne vous les impose pas. C'est toujours vous qui prenez la décision de valider ce qu'il dit. Mais oui, il peut faire des erreurs parce que...
Et donc vous avez la possibilité, en voyant ce qu'il propose, parfois de repérer l'erreur d'Antidote.
Tout
disant,
à fait.
Là, Antidote se trompe. Il n'a pas compris ça que moi, je comprends.
Exactement. Donc c'est à vous de décider si vous appliquez sa proposition ou non.
Ouais. Et quel type d'erreur peut faire un logiciel de cette classe-là, justement?
Ça va être des erreurs principalement sur les questions d'accord. Par exemple, si je dis « j'ai participé à un sondage en ligne ouvert », peut-être que lui, j'invente l'exemple en même temps que nous parlons, mais peut-être que lui va dire « ouvert » s'accorde avec « ligne » et donc ça devrait être « ouverte
». Comme si c'était une ligne ouverte et non pas un sondage qui est ouvert à beaucoup de participants.
Alors dans un cas comme cela, d'ailleurs, supposons qu'il le fasse, vous avez et que vous utilisiez très souvent cette expression, il y a une manière simple d'éviter ce problème pour le futur, c'est de créer dans son vocabulaire sondage en ligne, puisqu'on peut renforcer son vocabulaire. Vous créez tout simplement sondage en ligne comme étant une locution de nature masculine et il ne fera plus cette erreur, en supposant encore que cette erreur existe.
Alors, vous voulez dire par là que l'utilisateur de ce logiciel, qui a donc un logiciel qui intègre un ou plusieurs dictionnaires, peut contribuer à ces dictionnaires en mettant ses propres mots, en mettant presque son propre jargon personnel qui va s'additionner à tout le stock de mots et d'expressions comprises par ce dictionnaire.
Oui, c'est très important cette capacité de personnalisation lexicale. Nous-mêmes, Mysoft, nous l'avons fait dans un domaine très particulier qui est dans le domaine médical, tout simplement parce que le domaine médical, Antidote, qui a pas pour vocation à aller en profondeur dans les spécialités, fournit un vocabulaire médical, je dirais, de l'homme moderne, mais pas des professionnels de santé. Et donc nous avons créé un complément lexical de la terminologie médicale qui s'intègre à Antidote exactement de la même façon qu'un utilisateur pourrait le faire lui-même en créant son dictionnaire personnel.
Alors, quand on utilise Antidote, ça veut dire qu'on a aussi à sa disposition un ou plusieurs dictionnaires. Par exemple, on a des dictionnaires de synonymes. On ne veut pas répéter tel ou tel mot. On peut demander au logiciel qui vous propose un éventail de mots voisins pour voir comment on pourrait éviter l'inélégance de répéter un mot.
Alors, tout à fait, ça va même plus loin. C'est-à-dire que dans un premier temps, Antidote va pouvoir vous repérer lui-même qu'il y a des répétitions dans votre texte. Et effectivement, vous pouvez aller, dans ce cas-là, chercher dans son dictionnaire des synonymes.
Mais il y a beaucoup... sert à la fois de Jiminy Cricket et d'éditeur, quoi.
Exactement. Et dans les dictionnaires, Antidote, et c'est une de ses forces, propose en fait une dizaine de dictionnaires extrêmement variés, des dictionnaires, on va dire, classiques, dictionnaires de définition, comme dictionnaires de synonymes, mais également des dictionnaires très novateurs, comme par exemple les dictionnaires de co-occurrence.
Qu'est-ce qu'on appelle un dictionnaire de co-occurrence?
Les co-occurrences, ce sont de montrer pour un mot les mots qui sont fréquemment utilisés avec lui. Par exemple, assurance. Est-ce que c'est une assurance tranquille? Voilà, il va vous... Et donc, ça permet d'enrichir son vocabulaire et effectivement, dans ce cas-là, d'améliorer ses écrits. Ou pour prendre pour ceux qui sont férus, et je sais que on l'est dans cette émission, de la langue française et de son évolution, vous avez dans Antidote un formidable dictionnaire historique qui va vous montrer non seulement ce qui est assez classique, l'étymologie du mot, mais comment sa graphie a varié à travers le temps. Voilà qui est assez passionnant quand on s'intéresse à cela.
Alors, ce qui m'intéresse aussi dans ce que vous nous dites, Laurent Schulz, c'est que j'ai l'impression que ce correcteur peut rendre paresseux, mais il peut rendre en même temps actif. On peut s'en remettre au correcteur et donc avoir une orthographe spontanée de moins en moins bonne, mais on peut aussi utiliser, par exemple, Antidote, ce logiciel, pour améliorer sa compétence en orthographe, mais aussi en élégance de la langue.
Alors, je ne crois pas qu'il rende paresseux. Mais je crois par contre très fortement à la deuxième partie de votre proposition qui est celle de l'amélioration de la langue. Pour aller dans le sens de la non-paresse, il y a eu beaucoup de travail fait avec Antidote sur des enfants qui sont dysorthographiques, dyslexiques, qui s'accompagnent souvent de dysorthographie. Et dans tous les cas, on a pu montrer à travers ces expériences que les enfants, parce qu'ils ont un bon outil à leur disposition, au lieu de renoncer à l'amélioration de leur texte, au contraire, se prennent au jeu et font des progrès qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu cet outil à leur disposition.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont guidés à répétition vers la bonne façon d'écrire
tel mot, il s'améliore.
Oui.
Ou par exemple
sans qu'il y ait le côté du maître qui donne des coups de règle parce qu'on a fait une faute.
Effectivement, il n'y a pas le maître à côté. Ouais, ouais. Donc il y a effectivement un aspect autonomie qui est très important. Et puis grâce à l'informatique, on sait bien que les jeunes aiment bien l'informatique et heureusement, ils trouvent aussi sur l'aspect du vocabulaire, que ça soit pour rechercher l'orthographe d'un mot ou tout simplement ou améliorer leur vocabulaire, des outils qu'ils n'auraient pas avec les dictionnaires papier. Dans un dictionnaire papier, une des contraintes quand on recherche l'orthographe d'un mot, c'est déjà, entre guillemets, de connaître cette orthographe, autrement vous ne le trouvez pas. Avec comme un logiciel comme Antidote, quand on recherche un mot, on a ce qu'on appelle la recherche à la frappe. Il prend les lettres telles que vous les écrivez et il vous fait des propositions de mots, justement, toujours un petit peu, c'est la technique inverse de la correction orthographique dont on parlait tout à l'heure, qui sont proches de ce que vous écrivez et ainsi vous pouvez trouver le bon mot.
Le dernier problème reste de savoir si justement les progrès qu'on peut faire en écrivant sur un clavier vont être transmis à une autre façon d'écrire. Et si on écrit avec un stylo ou avec un crayon, est-ce qu'on va garder, disons, ces bonnes orthographes orthographiques?
Alors là, je ne sais pas répondre à cette question.
Non, moi non plus. Mais c'est une question que je me pose parce que de plus en plus, on aura deux types d'écriture. Une écriture extrêmement fréquente et qui est destinée aux autres, avec le clavier. Et puis une écriture manuscrite qui sera de plus en plus limitée, d'une certaine façon. Limitée à quelque chose qu'on fait uniquement pour soi et non pas pour les autres, quoi. Puisque quand on écrira pour les autres, on écrira sans faute et à l'aide d'un clavier et de façon absolument lisible.
Oui, en tout cas, moi, je suis plutôt à la réflexion optimiste par rapport à votre question. Je crois que d'une manière générale, plus on s'attache à la qualité de l'écriture, plus on a envie d'écrire, plus on aime écrire, et à la limite, peu importe l'endroit et la manière dont on écrit.
Ben écoutez, merci beaucoup pour tout ça, Laurent Schulz. Je rappelle donc que vous avez fondé cette société MySoft et que vous vous occupez de distribuer ce logiciel Antidote. Merci bien d'avoir été avec nous dans cette danse des mots qui vous est proposée par le réseau Canopé et par RFI. Sophie Janin, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.